RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et la rubrique Mon Indonésie. Pour leur programme suivant, vous allez écouter Magazine Culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Selon le ministère des Affaires étrangères, l'Indonésie est prête à construire l'infrastructure en Éthiopie. L'énergie renouvelable dans le nord de Sumatra devient un potentiel touristique. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le gouvernement indonésien offre la coopération au gouvernement éthiopien dans la construction d'infrastructures. Cela a été déclaré par le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, M. A.M. Fahir, dans un communiqué de presse jeudi à Jakarta. Il souhaite que le projet de la construction des infrastructures entre l'Indonésie et l'Éthiopie puisse être identifié immédiatement pour être réalisé dans un proche avenir. Auparavant, M. A.M. Fahir a tenu une réunion bilatérale avec le ministre éthiopien des entreprises publiques, Tesom Toga, à Addis Abeba, mercredi. Le vice-ministre a espéré que le projet en cours d'identification pourrait devenir l'un des accords commerciaux concrets entre les deux pays qui sera annoncé lors de la prochaine réunion du dialogue Indonésie-Afrique sur les infrastructures ou IAID. À cette occasion, M. A.M. Fahir invite également le gouvernement et les hommes d'affaires éthiopiens à participer activement au forum de IAID qui se tiendra du 20 au 21 août 2019 en Indonésie. Cette offre a reçu une réponse positive du ministre de Toga parce que l'Indonésie était un partenaire économique potentiel de l'Afrique, y compris l'Éthiopie, et l'engagement du gouvernement indonésien qui est assez grand. L'investissement dans la construction d'une centrale électrique à base d'énergie renouvelable est un besoin urgent pour l'Indonésie. La construction d'une centrale électrique à base d'énergie renouvelable, telle que l'énergie éolienne, les eaux et géothermie, qui est très utile pour stimuler les investissements régionaux et améliorer le bien-être des populations. Cela a été déclaré par le directeur de la Banque d'Indonésie, le représentant de Sumatra du Nord, Andi Wiana, vendredi. Selon Andi Wiana, le potentiel des énergies nouvelles et renouvelables au nord de Sumatra est très important. S'il est utilisé et géré de manière optimale, cela peut être un potentiel économique. Selon lui, la Banque d'Indonésie essaie d'être un initiateur pour créer des discussions afin de synchroniser le programme. Il est optimiste. Le potentiel énergétique au nord de Sumatra est actuellement suffisant.
Le député de la famille, des femmes, des enfants, de de la jeunesse et des sports de l'Agence nationale de planification du développement, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, a déclaré à Jakarta que l'Indonésie avait obtenu des résultats significatifs dans le domaine du développement basé sur le genre. Selon Woro, les femmes en Indonésie ont contribué de manière positive au développement plus approfondi de divers aspects. Woro a expliqué que les femmes en Indonésie ont un accès plus large à l'éducation à différents niveaux. L'Indonésie a réalisé des progrès importants dans le développement fondé sur le genre dans divers secteurs. On peut le voir du nombre dégradé de pauvres de 11,13% en septembre 2015 à 9,82% en mars 2018. En outre, les femmes ont un accès plus large aux services éducatifs. On peut témoigner de cette réussite en raison de la forte participation des femmes à divers niveaux d'enseignement, du primaire au secondaire, en passant par le lycée. Cependant, des progrès sont clairement identifiés dans le secteur économique, car il existe un certain nombre de développements dans le secteur économique et au niveau. Le taux de chômage ouvert des femmes a tendance à diminuer de moitié, passant de 9,69% en 2008 à 5,44% en 2017. Le revenu brut des travailleuses a augmenté au cours des 5 dernières années de 34,16% en 2011 à 36,4% en 2016. En outre, Woro Srihastuti a déclaré que la participation des femmes à la vie politique avait augmenté. Cela est prouvé par la proportion croissante de femmes dans l'Assemblée législative nationale lors des élections générales de 2004 à 2014. L'égalité de sexe est l'un des points à atteindre dans les objectifs de développement durable. Woro a déclaré que l'égalité de sexe contribuait à soutenir les efforts de l'Indonésie pour atteindre les objectifs de développement durable par la participation des femmes au développement, à la fois en tant qu'actrice et bénéficiaire des bénéfices du développement. Le gouvernement du Myanmar, par le conseiller pour les affaires de sécurité nationale, explore la coopération avec la police nationale indonésienne liée à la police communautaire. La police communautaire est un partenariat entre la police et la communauté pour identifier les problèmes de violence et de la criminalité impliquant tous les éléments de la société afin de trouver des solutions à ces problèmes. Il a été déclaré par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, après une réunion avec le conseiller national des affaires de sécurité du Myanmar, Taung Tun, à Jakarta, mercredi 8 août. Le gouvernement du Myanmar veut étudier l'expérience indonésienne de faire la police communautaire et faire leur tâche de manière amicale avec la communauté. Il y a d'autres choses qu'ils ont déclarées sur l'importance de la coopération, à savoir améliorer la police communautaire. Nos policiers ont la bonne expérience qui peut être partagée avec le Myanmar. Comment exercer leur fonction de l'amiable avec la communauté. Il y a une rencontre entre la NSA, soit conseiller des affaires de sécurité nationale du Myanmar, avec le chef de la police hier pour explorer la police communautaire. La ministre Retno Marsudi a dit qu'en plus d'explorer la coopération dans le domaine de la police, le Myanmar a également demandé au gouvernement indonésien de donner une plus grande contribution à la reprise de la crise humanitaire et en ciblant la minorité ethnique Rohingya. La forme de la contribution est entre autres de stimuler l'économie dans l'État Rakhine par les activités économiques telles que l'investissement, parce que l'activité économique est considérée peut donner l'assurance pour les gens qui y vivent. Selon la ministre, la demande du gouvernement de Myanmar était encore étudiée par le gouvernement indonésien. Le vice-président Yusuf Kalla demande tous les membres de l'association indonésienne de baccalauréat en économie, ISEI, à contribuer à la croissance économique en Indonésie en fonction de leur rôle d'économiste, d'académicien, de bureaucrate et de professionnel. Ces quatre professions exercées par ISEI peuvent en partie apporter des changements à la fois dans l'État, dans la politique privée et dans l'avance conjointe. Cette combinaison peut également amener l'ISEI à jouer un rôle important dans l'économie nationale. Selon l'agence de presse Antara, la demande du vice-président Yusuf Kalla a été transmise lors de son discours prononcé dans le 20e congrès de l'ISEI à Bandung, l'ouest de Java. Il a déclaré que la croissance économique en Indonésie atteignait 5,17%, qui est toujours en position intermédiaire par rapport aux autres pays en développement. Pour stimuler la croissance économique, le vice-président Yusuf Kalla a affirmé que la productivité devait augmenter dans de nombreux secteurs. L'un des principaux secteurs est l'augmentation de la production de produits alimentaires.
Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, le conflit dans les relations canadiennes-Arabie Saoudite. Actuellement, le statut sur les médias sociaux peut également poser un problème dans les relations entre les deux pays, comme c'est passé lorsque la semaine dernière, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a exprimé son inquiétude par le biais des médias sociaux au sujet de la détention des militants saoudiens Samar Badawi. À la suite de cette déclaration, le Royaume de l'Arabie Saoudite a rappelé son ambassadeur au Canada et expulsé l'ambassadeur du Canada de Riyad. Plusieurs autres actions ont été menées par ce royaume, entre autres, rappeler les étudiants qui étudient au Canada, interdire aux Saoudiens de se rendre au pays et d'arrêter les services de vol saoudiens au Canada. Les Saoudiens confirment qu'ils ne permettront pas à d'autres pays d'intervenir dans leurs affaires internes. Les actions saoudiennes sont soutenues par les pays voisins de la région tels que le Bahreïn, les Émirats arabes unis et la Palestine. Les États-Unis, qui sont proches des deux jusqu'à présent, n'ont pas soutenu clairement de quel côté. Si avec le Canada, les États-Unis ont une relation dans le cadre de l'OTAN, avec l'Arabie Saoudite, il existe un forum bilatéral étroit qui lie les deux pays. À l'heure actuelle, la relation entre le président américain Donald Trump et le premier ministre canadien Justin Trudeau n'est pas très bonne, tandis qu'avec l'Arabie Saoudite, Trump est connu pour fournir plus d'espace. Le premier pays visité par Trump après être devenu président était l'Arabie Saoudite. En mars de cette année, les États-Unis ont également reçu la visite du prince Mohammed bin Salman. Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, lui-même s'est excusé pour les mises à jour de statut sur les médias sociaux qui ont réchauffé les relations du Canada avec l'Arabie Saoudite. Il y a des efforts pour améliorer la relation qui empire. La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a également pris contact avec le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir. Il semble que ce problème sera résolu par le Royaume d'Arabie Saoudite et le Canada. Si tout va bien, dans un avenir pas trop longtemps, les relations entre les deux pays seront bonnes à nouveau. Le règlement peut être effectué soit directement par les deux pays, soit par la médiation d'autres pays. Pour que la région du Moyen-Orient, qui a été touchée par divers conflits, n'aurait pas d'autres problèmes. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 10 août. Le 10 août 1937, la guerre entre le Japon et la Chine. Le 10 août 1937, il y a eu une guerre de 2 ans entre le Japon et la Chine dans la lutte contre Canton et Shanghai, deux régions importantes de la Chine. Canton est un port important et stratégique du sud de la Chine. Les Chinois se sont battus pour défendre leur territoire. Cependant, après un grand nombre de victimes, le 25 avril 1939, les forces chinoises se sont rendues et Canton a été capturé par les Japonais. Avec le début de la Seconde Guerre mondiale, le Japon occupait une grande partie de la Chine. Cependant, le peuple chinois s'est battu si fort que le Japon a finalement retiré ses troupes. Le 10 août 1973, le président Suharto a inauguré le début de la deuxième restauration du temple Borobudur. Le temple Borobudur est un temple bouddhiste situé à Borobudur, Magelang, à Java central. L'emplacement du temple est environ 100 km au sud-ouest de Semarang et à 40 km au nord-ouest de Yogyakarta. Le temple a été fondé par les adeptes du bouddhisme Mahayana environ l'an 800 sous le règne de la dynastie Shailendra. Le temple Borobudur a subi plusieurs rénovations. Il fut d'abord restauré en 1907 à 1911 par Vanerbe pour réparer et restaurer la section Arupa Datu et le stupa principal. Le 10 août 1973, le président Suharto inaugura le début de la deuxième restauration du temple Borobudur. La restauration du temple Borobudur a impliqué plus de 600 travailleurs. Le plus grand projet de restauration a eu lieu entre 1975 et 1982 avec l'aide du gouvernement de la République d'Indonésie et l'UNESCO. Le bâtiment du temple restauré est un bâtiment Rupa Datu qui se trouve à 4 niveaux du bas sous la forme d'un carré. Cette activité prend 10 ans. Le 23 février 1983, la restauration du temple Borobudur a été déclarée complète avec l'inauguration par le président Suharto avec la signature de l'inscription. Après la rénovation, l'UNESCO a inscrit Borobudur sur la liste des sites du patrimoine mondial en 1991. Le 10 août 1995, l'avion Gatot Kaca N250 produit par l'Industrie Aéronautique Nusantara Société Anonyme a effectué pour la première fois le test en vol. La commémoration de la Journée nationale de l'éveil technologique a débuté lorsque la nation indonésienne a réussi à effectuer le test en vol de l'avion Gatot Kaca N250 pour la première fois suite à la production de l'Industrie Aéronautique Nusantara Société Anonyme, maintenant Dirgantara Indonesia Société Anonyme, le 10 août 1995. Ce succès témoigne clairement des réalisations des fils et fils de la nation indonésienne, fiers de leurs efforts pour développer, appliquer et maîtriser les sciences technologiques, notamment dans le domaine aérospatial. Par conséquent, conformément au décret du président de la République d'Indonésie numéro 71 de 1995, le 10 août a été proclamé Journée nationale de la prise de conscience technologique. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre « L'Indonésie élimine les droits d'importation sur les dattes et les produits à base d'huile d'olive de la Palestine ». L'Indonésie et la Palestine ont signé l'accord de mise en œuvre du protocole d'entente concernant le don de la préférence de l'application de l'élimination du droit à l'importation de 0% sur les dattes et les produits à base d'huile d'olive vierge de la Palestine. La signature est effectuée par le ministre du Commerce de la République d'Indonésie, Enggar Tias Tolu Kita, et l'ambassadeur de Palestine en Indonésie, Zohir Al-Shun, à Jakarta, lundi le 6 août 2018. Après la signature, le ministre Enggar Tias Tolu a déclaré que la loi de mise en œuvre sera automatiquement appliquée un mois après la signature, en septembre 2018, et que l'Indonésie la Palestine prépare à établir une coopération appelée l'accord commercial préférentiel.
Kita baru menandatangani tindak lanjut dari kesepakatan yang.
Nous venons de signer le suivi de l'accord fait par l'Indonésie et la Palestine et c'est le suivi de l'accord de mise en œuvre. Il sera automatiquement mis en place un mois après la signature en fonction des conditions appliquées. En outre, lors de notre discussion précédente, nous convenons tous deux de renforcer et de préparer l'accord commercial préférentiel entre l'Indonésie et la Palestine. Les documents de l'accord de mise en œuvre, ou IA, sont les instructions techniques relatives au mémorandum d'accord sur l'élimination des droits d'importation de 0% pour les dattes et les produits à base d'huile d'olive vierge de la Palestine à l'Indonésie. La signature de l'accord faisait suite à la ratification du protocole d'accord signé par l'Indonésie et la Palestine. Le processus de ratification a été achevé avec la publication du règlement présidentiel numéro 34 en 2018 sur la ratification du protocole d'accord de la Palestine le 11 avril 2018. Selon le ministre Enggar Tias Tolu, le protocole d'accord est un mandat visant à mettre en place des instruments pour faciliter les exportations de la Palestine en supprimant le droit d'importation en Indonésie. Cette tentative vise également à soutenir le peuple indonésien dans la lutte de la société palestinienne, en particulier dans le but d'augmenter l'économie de la société palestinienne. Le ministre Enggar Tias Tolu a déclaré qu'à l'avenir, il serait possible d'éliminer les droits d'importation pour d'autres produits afin de soutenir le commerce de la Palestine. La coopération commerciale entre l'Indonésie et la Palestine serait plus spéciale que la coopération avec d'autres pays. Bien que la forme de la coopération soit un accord commercial préférentiel ou PTA, l'Indonésie n'applique pas les autres étapes à la Palestine, comme en réalisant l'étude de faisabilité afin de changer la liste des produits pouvant être échangés. Le ministre Enggar Tias Tolu a ajouté que suite à l'accord, le ministère du Commerce de la République d'Indonésie attend actuellement la liste des produits qui sont exportés par la Palestine. De même, l'Indonésie va également envoyer la liste des produits qui sont exportés vers la Palestine afin qu'ils puissent être adaptés à la nécessité de la Palestine. Secrétaire, c'était mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bukalah matamu, kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu.
Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema.
Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik.
Show the world.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien, dalam program Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, merci d'être fidèles à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, nous présenterons la cascade de Landung et vous pouvez écouter notre programme en streaming. Aujourd'hui, nous présenterons la cascade de Landung située dans la province de Java West. Kuningan est l'une des régions dans la province de Java West. Cette région possède des potentiels touristiques. Sa beauté naturelle, sa cascade et les eaux chaudes ont fait de cette région une place visitée par beaucoup de touristes domestiques et étrangers. L'un des potentiels touristiques de Kuningan est la cascade ou Curug. Ici, il y a des belles cascades, entre autres la cascade de Landung. Elle est située dans le village de Cisantana, le district de Cigugur, la région de Kuningan, environ 5 jusqu'à 6 heures de Jakarta et 30 minutes du centre-ville de Kuningan. Curug Landung vient du mot cur, qui signifie chai ou les eaux, et rugu, qui signifie couler, et Landung, qui signifie long ou bien haute, dont la cascade Landung signifie la haute cascade. Elle est l'une des plus hautes cascades dans la ville de Kuningan. Sa hauteur atteint 30 mètres. Les eaux de Curug Landung viennent de Curug Putri, située dans les terrains de camping de Palutungan, environ 1 km. Ces deux cascades proviennent de l'une des sources d'eau chaude du mont de Ciremai, à savoir la source d'eau chaude de Kopi Cilaja. En arrivant à cette zone de cascade, vous devez payer un billet d'entrée de 10 000 rupiah et les frais de stationnement de 5 000 rupiah par véhicule. Du parking à la cascade, vous devez descendre les escaliers en béton jusqu'à 200 mètres. Vous serez surpris par sa beauté. La cascade est haute et propre. Pour sentir la fraîcheur des eaux, vous pouvez nager ou simplement jouer des eaux dans la piscine. Par la communauté locale, des chutes d'eau est censée avoir une efficacité dans le traitement de la migraine, amnésie et épilepsie. En plus de jouir de la fraîcheur des eaux à Curug Landung, vous pouvez prendre un selfie ou autoportrait. Et dans cette zone touristique, il y a beaucoup de spots photo contemporains tels que Wing Sky ou Balançoire, tapisserie volante, fleurs de soleil et nid des oiseaux, y compris tour de bambou, ciel de bambou et maison de hobbit. Les installations dans la cascade de Landung sont complètes, entre autres toilettes, mosquées, restaurants, gazebo, la zone de parking et la pause de centre d'information. Bon, chers amis, c'était Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Chers auditeurs, voici donc Indonésie en couleur ayant pour le titre l'exposition asiatique du cher ami. L'exposition asiatique de céramique est organisée par le département du tourisme et de la culture de Jakarta du 4 août au 2 septembre afin d'animer les Jeux asiatiques 2018. L'exposition a eu lieu au musée des Beaux-Arts et de la céramique sur la rue Poskota numéro 2, Jakarta Occidentale. Le chef intérimaire du département du tourisme et de la culture de Jakarta, Asian Toro, a expliqué que l'exposition soulève le thème « La céramique de l'Asie à Batavia, l'Asie du partenariat ». Il existe 200 collections de céramiques de divers pays d'Asie. Sur les 200 céramiques exposées, certaines provenaient d'Indonésie, de Chine, du Japon, du Vietnam, de Thaïlande et d'autres pays d'Asie. Pendant ce temps, Esti Utama, chef du musée d'art de Jakarta du département de tourisme et de la culture, a déclaré que diverses collections présentes à l'exposition venaient non seulement du musée d'art et de céramique, mais aussi du musée de première partie de Taman Mini Indonesia Inda, le Centre national de recherche archéologique, ainsi que des propriétés privées ou des collectionneurs. Le concept de l'exposition est emballé par le professeur Nani Harkantiningsih, commissaire d'exposition, afin de présenter des preuves de restes de céramique qui ont montré le rôle important de Batavia sur les routes de commerce mondial où les céramiques asiatiques étaient la marque de commerce la plus importante de l'époque. Serditeur, le chef du musée d'art de Jakarta du département de tourisme et de la culture, Esti Utama, a ciblé environ 150 000 à 200 000 touristes étrangers et plus de 200 000 touristes locaux ont visité l'exposition. Elle a espéré que les touristes locaux et étrangers sont intéressés à l'exposition. De plus, la mise en œuvre coïncidant avec les Jeux asiatiques. L'exposition est le début d'une série de programmes de musée d'art consacrés à l'accueil de la ville dynamique de Jakarta en tant qu'hôte des Jeux asiatiques 2018. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À demain.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Salut les auditeurs de RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. Voici le magazine musical, une rubrique qui va vous présenter les chansons indonésiennes. Aujourd'hui, on va vous introduire les chansons en langue Sasak, une tribu indigène de l'île de Lombok. La première chanson qu'on va donner intitulée Inak Tegining Amak Teganang, interprétée par Rosana. Les paroles de la chanson parlent d'un couple d'éleveurs s'appelle Inak Tegining et son mari Amak Teganang. Les gens disent que Inak Tegining et Amak Teganang racontent souvent des histoires, plus souvent que les rois qui font des discours. Bon les auditeurs, écoutons maintenant la chanson de Rosana s'intitulant Inak Tegining Amak Teganang.
Musik sopo cerita le jaman lae ara sopo cerita ina tegini amat tekanan arane pegawean ngarat sampile tengah rau sambil saya tekujar tujile tengah rau bin saya tekudang tujing le tengah rau ina tekini amat teganan epene ongkat dengan tekini teganan luwe cerita ngalahin datu saya boleh-boleh ongkat ne
Chers auditeurs, la chanson en langue sasak de Lombok, Nusa Tenggara de l'Ouest, que vous allez écouter est Kadal Nongak. Ces paroles parlent de quelqu'un qui ne voulait pas écouter les conseils, ce qui ressemble à un lézard arrogant. À cause de son arrogance, il doit subir de mauvaises conséquences. La chanson intitulée Kadal Nongak est entièrement fiable pour des conseils dont les élèves d'école primaire de Nusa Tenggara de l'Ouest devraient la mémoriser. Et les auditeurs, voilà la chanson qui est pleine de conseils, dont le titre est Kadal Nongak. Bonne écoute!
Kadal nongak le kesambi benang kata
setak hilang ado dende mun cempak ke si kembang sanda sak sengak ke jari sahabat taja onya dek nemati nane rasa kejarian aro dende mun cempak ke si kembang sanda sak sengak ke jari sahabat. Kadal nongak le kesambi benang kata setak hilang ado dende mun cempak ke si kembang sanda sak sengak ke jari sahabat taja onya dek nemati nane rasa kejarian aro dende cempak ke si kembang sanda sak sengak ke jari sahabat.
Les auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Rosanna intitulée Kadal Nongak. La suite, vous allez écouter la chanson intitulée Sakitne Angen, chantée par Nadia. Cette chanson en langue sasak raconte de la douleur d'une femme trahie par son amant, parce que son amant l'a trompée. Et alors, voilà la chanson de Nadia s'intitule Sakitne Angen. Bonne écoute! Voilà la chanson intitulée « Sakitne Angan » de Nadia. Nous allons également terminer l'édition du magazine musical d'aujourd'hui sur les chansons de Lombok, Nusa Tenggara, de l'Ouest. Et voici la chanson intitulée « Ngiring Penganten » chantée par Ernie. Bonne écoute et à demain!
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 925 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie. informing, connecting, dignifying.
Chers amis, merci d'être fidèles à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.